De retour à l'émission Au gré du temps, avec nous le professeur Norman Cornett, qui a mis au point cette approche dialogique. Si on essayait de comprendre, qu'est-ce que vous entendez par approche dialogique?
Mais très bonne question, d'autant plus qu'on vient d'écouter François Couperin. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce compositeur de l'âge d'or, la musique française, qui d'ailleurs était maître du clavier. Son pendant allemand, n'est-ce pas, c'est Bach. Mais le dialogue, eh bien, écoutons à un autre moment, peut-être lors d'une émission future, sur le tombeau de Couperin. Vous savez, seul Dieu crée du néant. Ex nihilo. Nous, les communs des mortels, on est toujours en dialogue avec les autres. Or, quand on pense à Couperin et Ravel sur le tombeau de Couperin, il puise son inspiration dans celui qui l'a précédé et qui est en quelque sorte qui a établi la marque par excellence du piano.
Et donc, si vous me permettez, j'ajoute une note à ce que vous dites. Le chef d'orchestre René Jacob, celui qui en 77 a fondé le Concerto Vocale, a dit de Couperin, il n'y a peut-être aucune œuvre dans toute la musique française du 17e siècle qui puisse toucher l'auditeur aussi profondément que les Leçons de ténèbres de François Couperin.
Oui, il y a là une profondeur. Et j'aime beaucoup quand on parle du dialogue, que ce soit en musique, que ce soit dans les arts visuels, que ce soit dans l'éducation ou dans les sciences. Pensons également, quand on parle de Maurice Ravel, et bien, il avait écouté, il avait vu la musique de tableau d'une exposition par Moussorgsky.
Oui.
Eh bien, Moussorgsky, à cause de l'alcoolisme, d'une mort prématurée, n'a jamais terminé et encore moins orchestré tableau d'une exposition. Mais j'invite l'auditoire de Radio VM et de cette émission Au gré du temps d'écouter l'orchestration de Maurice Ravel, tableau d'une exposition. C'est sublime. Et tout ça parce que Ravel, tout comme il insistait pour de dialoguer avec François Couperin, il voulait autant faire avec un russe d'une autre culture, d'une autre langue, d'une autre tradition musicale. Et nous, on en bénéficie tous à cause de ce dialogue. Or, j'estime que la création, ça se passe dans l'interstice entre l'imaginaire de l'artiste et l'imaginaire de l'auditoire, ou dans le cas de Ravel, entre l'imaginaire de Couperin et l'imaginaire de Ravel, ou entre l'imaginaire de Moussorgsky et l'imaginaire de Ravel. Donc, ce qu'il nous faudrait viser dans l'enseignement, dans l'éducation et dans les arts, c'est de favoriser cette rencontre des imaginaires.
Est-ce que il est possible, dans ce que vous appelez l'approche dialogique, d'être en contact avec soi-même? C'est-à-dire que je puisse dialoguer avec ma propre imagination, avec mon propre sens de la créativité?
Excellente question, Monsieur Dubois. Et je n'hésite pas à recommander à l'auditoire de Radio VM, de l'émission Au gré du temps, de lire attentivement les psaumes des écritures hébraïques, parce qu'on se rend compte là qu'il est possible de communier avec soi-même par la méditation, par la contemplation, par la lecture des saintes écritures.
Mais voilà, on pourra y revenir. On va d'abord écouter une musique. Mais j'aurais une question et que je vous adresse tout de suite. Ça va nous permettre d'y réfléchir pendant que nous écouterons le Credo de Vivaldi, RV 591, Crucifixus, interprété par l'Orchestre de chambre de Budapest. La question est la suivante. Vous parlez d'introspection, de prière, vous parlez des psaumes. Et dans notre monde moderne où tout va vite, on est de moins en moins porté au silence, à la méditation, à la prière. Est-ce qu'il n'y a pas là un manque évident de profondeur dans notre monde qui se cherche un peu. Je vous laisserai répondre après l'audition de Vivaldi. On vient d'entendre l'orchestre de chambre de Budapest nous interpréter ce credo de Vivaldi avec une question qui est restée en suspens. Nous sommes avides d'entendre vos réflexions à ce sujet.
Mais je persiste et je signe Socrate, la vie irréfléchie ne vaut pas la peine d'être vécu. Et pourquoi est-ce que j'ai créé de toutes pièces cette approche dialogique à l'éducation? Et eh bien, je me suis rendu compte, monsieur Dubois, que peu importe le campus universitaire en question, on est à la course à une seconde. Il faut que je termine la lecture, il faut que je finisse l'examen, il faut que je cours.
On parle des étudiants qui sont en stress et qui vivent la dépression.
Et justement, monsieur Dubois, parce que là, je me suis rendu compte, je n'avais que des étudiants de famille nantie, des quatre coins du monde. Donc, ce n'était pas une question d'argent. De plus, j'avais des étudiants et étudiantes fort, fort intelligents. Donc, ce n'était pas une question d'intelligence. Et pourtant, l'anorexie, boulimie, dépression clinique, alors qu'elles ont 19 à 22 ans. Ce sont les meilleures années de la vie. Et ils, elles sont déprimées, découragées, désespérées. Alors là, je me suis dit, il y a quelque chose qui tourne pas rond, parce que ces gens se perçoivent dans une course à bout de souffle.
Mais ces gens vous diront aussi qu'il n'y a pas de place dans leur vie pour le silence, pour la méditation, pour prendre le temps.
Je crée un espace de silence et de réflexion. Et d'ailleurs, Monsieur Dubois, cette approche dialogique à l'éducation, je me suis rendu compte en tant que spécialiste en sciences des religions, et c'est mon devoir pour le doctorat, d'apprendre le grec ancien, donc du Nouveau Testament, d'apprendre l'hébreu pour les écritures hébraïques, et je sais par l'histoire de l'Église, qu'elle soit catholique, qu'elle soit orthodoxe, que pendant des siècles, pour ne pas dire des millénaires, on a contemplé ces saintes écritures, on a médité ces saintes écritures. Eh bien, je me suis dit, et si on méditait une toile, si on contemplait une sculpture, si on prenait dans le silence absolu, la musique. Donc, je collabore autant avec des musiciens, avec des compositeurs, avec des cinéastes, parce que ces arts sont autant de miroirs qui reflètent, qui miroitent la condition humaine en général, mais qui plus est ma condition humaine, le tréfonds de moi-même. Et c'est ce qui me permet de communier avec moi-même.
Donc les arts ont une importance très 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 grande dans tout ce qui est la vie qui bat autour de soi.
C'est l'axe de ma philosophie dialogique de l'éducation. Et j'aime bien qu'on vienne d'écouter le credo. Vous savez que je commence chaque cours que j'enseigne avec deux mots. Je crois. Et j'invite les étudiants et étudiantes à terminer la phrase. Parce que je me suis rendu compte qu'on a une peur bleue de croire, d'avoir la foi, d'avoir des convictions et d'assumer ce qu'on pense soi-même. Au lieu d'être, de faire écho, de ne faire que répéter les autres. Mais dans quelle mesure pourrais-je devenir un citoyen à plein titre qui pense pour soi-même, qui agit pour soi-même, un citoyen qui sait s'informer pour prendre des décisions réfléchies dans l'espace public, entre autres lors des élections?
Nous venons d'entendre un extrait de La Passion selon Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, BWV 244, la première partie, qui est notée « Venez, fille, aidez-moi à poursuivre en justice ». Et c'était les solistes de l'orchestre baroque anglais, le chœur Monteverdi et le chœur junior de l'oratoire de Londres, sous la direction de John Eliot Gardiner. Quand on entend Bach, on a l'impression de toucher presque à Dieu.
Il ne visait rien de moi, Monsieur Dubois. Et c'est combien salutaire d'écouter John Eliot Gardiner, une sommité comme chef d'orchestre, qui nous a beaucoup aidé à puiser dans ce répertoire baroque. Et il y a tout ce mouvement d'authenticité, d'avoir les instruments de l'époque avec les sonorités de l'époque. Parce que disait le philosophe français Merleau-Ponty ? Chaque perception est une interprétation. Or, ce que moi je fais lors des ateliers dialogiques, dans les classes universitaires, c'est que je mène des expériences en perception et interprétation. Le mot technique, c'est l'herméneutique, la science de l'interprétation. Or, tout est sujet à l'interprétation. Et du moment qu'on permet aux étudiants et étudiantes d'explorer et de valoriser, voire de valider leur perception, leur interprétation, eh bien, ils ne sont plus des êtres passifs, mais actifs, qui prennent part à leur propre éducation.
Professeur Cornette, puisque le temps nous bouscule un peu, et que vous êtes aussi un grand spécialiste de l'histoire des religions, comment devrait-on vivre en ces période de 21e siècle, ce que l'on appelle les jours saints. Est-ce qu'il est encore possible de donner un sens à ce Triduum Pascal, par exemple?
Comment vivre en toute humilité, sachant que la condition humaine est combien fragile, vulnérable, on n'est qu'un souffle.
Alors, écoutez, un grand, grand merci d'avoir été là. On vous invite à nous revenir la semaine prochaine
Avec grand plaisir, Monsieur Dubois.
Parce que je pense que vous venez d'ouvrir tout un pan de réflexion qu'il faut continuer, sur lequel il faut continuer de s'attarder. Bien sûr, le champ de l'éducation est très vaste. Le champ de la condition humaine, comme vous le dites aussi. On a des occasions parfois peut-être de se désoler de l'état du monde, mais on a aussi peut-être d'autres occasions pour s'en réjouir. En cette période de méditation, les jours que nous vivons en ce moment, c'est peut-être un moment nécessaire. Peut-être serez-vous d'accord avec moi pour prendre le temps, pour s'arrêter, pour méditer et pour voir quel sens on peut donner aussi à sa vie.
C'est la façon de savourer la vie.
Voilà. Cette émission a été réalisée sous la supervision technique de Pierre de Gagné, Armand Dubois qui est au micro et à la réalisation. On va sûrement vous permettre un autre moment de belle réflexion en écoutant l'introïte du Requiem en ré mineur, que chez 626 de Wolfgang Mozart. Si, avant de se quitter, j'aimerais quand même entendre juste un bref commentaire du professeur Cornette sur ce Requiem de Mozart. Il suscite quoi en vous?
La tragédie. Mais encore, j'insiste sur le dialogue, combien Mozart, même s'il était beaucoup plus jeune que Joseph Haydn, a tout le modèle, ce dialogue entre le maître Haydn et l'élève Mozart, qui a permis le répertoire qu'on connaît comme les quatuors à cordes, et de Mozart et de Haydn, ça enrichit l'humanité. Et quand on pense à Beethoven, la première symphonie de Beethoven sonne comme celle de Mozart, une vie comme une étoile filante, mais qui a laissé une impression éternelle.